Ce soir, nous accueillons M. Robert Ducluseau, qui est ingénieur agronome, diplômé de microbiologie et d'immunologie, docteur d'État et sciences. Il est actuellement directeur de recherche à l'INRA et président du centre de recherche de Jouy-en-Josas. Sa spécialité au laboratoire d'écologie microbienne, c'est la recherche sur la flore microbienne du tube digestif, dont il va vous parler évidemment ce soir. Il fait partie de plusieurs associations. Il est en particulier membre du Comité consultatif national d'éthique et membre de l'Académie d'agriculture. Voilà, je lui laisse la parole. Merci.
Eh bien, mesdames, messieurs, quand nous avons programmé cette conférence qui s'intitule « Les bons et les mauvais microbes », Ni les organisateurs de l'Université de tous les savoirs, ni moi, ne savions qu'elle allait être au milieu d'une chaude actualité. Mais je sais que ce soir, vous avez tous entendu parler des Listeria, ou alors vraiment, je ne sais pas où vous vivez. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler des prions qui sont dans les cervelles de nos vaches folles. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de l'épidémie de méningocoque, de méningite à méningocoque qui existe dans l'est de la France. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler du virus de sida. Bref, vous avez tous entendu parler d'une fraction de ce qu'on appelle les microbes. Alors les microbes, il y a en gros un siècle et demi qu'on les connaît, et on pensait que depuis un siècle et demi, à travers l'hygiène d'un côté, les vaccinations de l'autre, les antibiotiques par-dessus le marché, on allait réussir à s'en débarrasser et à les éradiquer. Eh bien, c'est pas vrai, lisez Le Monde et vous verrez que c'est pas vrai, ils sont toujours là. Alors, ce que ne vous disent pas quand même les médias, c'est que ce dont on vous parle tout le temps dans vos journaux, et qui sont les microbes dangereux, les microbes pathogènes, ça ne représente que la toute petite pointe émergée d'un énorme iceberg de microbes dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes immergés, qui sont à l'intérieur de nous, qui sont à l'extérieur de nous. Et ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est un petit peu des méchants, mais aussi beaucoup de ceux qui sont ou indifférents, ou en tout cas utiles, et même pour certains d'entre eux, qui sont indispensables à notre survie sur cette planète. Alors, pour commencer d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un microbe ? Alors, littéralement, c'est une toute petite vie, c'est ça que ça veut dire, hein, micros, bios, une toute petite vie. Donc, en fait, ce sont des êtres qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais uniquement à travers un microscope optique, un microscope électronique, et qui, par ailleurs, sont unicellulaires, c'est-à-dire que c'est des cellules isolées, toutes identiques les unes aux autres, et qui ne s'organisent pas en tissu, comme chez les plantes ou comme chez les animaux. Ça, c'est un microbe. Alors, vous voyez, c'est une définition tout à fait pragmatique des petits êtres qu'on ne peut voir qu'à travers un microbe, et ça recouvre une très grande diversité biologique par ailleurs. Alors, il y a dans ces microbes, et pour schématiser, un certain nombre d'entre eux qui sont faits de cellules tout à fait similaires aux cellules des êtres vivants supérieurs. Ceux-là, on les appelle les eucaryotes, et à ceux qui ressemblent à des cellules végétales pour des raisons de structure cellulaire dans lequel je ne vais pas rentrer. On pourrait voir peut-être la première diapositive. Alors, dans ceux qui ressemblent à des cellules végétales, en voici qui sont des levures que vous pouvez trouver sur le fromage de chèvre et qui font partie de son arôme et de son goût. Vous en mangez beaucoup, des comme ça. La suivante, voilà d'autres microbes qui sont toujours dans ce domaine végétal. C'est d'autres levures, mais celles-là sont méchantes. Elles vous font des maladies. Candida albicans, c'est l'agent particulier du muguet chez les bébés, mais d'un certain nombre d'autres infections. La suivante. Alors, vous avez aussi d'autres microbes dans ce domaine végétal qui sont des champignons, voilà, des champignons microscopiques. Ça, c'est ceux qui font du vert sur le roquefort, mais tous ceux qui font du bleu dans le fromage, à un moment ou un autre, en sont aussi des champignons. Et puis, alors, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus proches des cellules animales. Hein. Et la suivante, Dans cela, vous avez les protozoaires et vous avez là une jolie image d'une très vilaine bête qui est le protozoaire de la maladie du sommeil, le trypanosome de la maladie du sommeil. Alors, à côté de cela, donc, qui sont les eucaryotes, vous en avez une grande quantité d'autres qui, eux, sont assez différents des cellules des êtres supérieurs, en ce sens en particulier qu'ils n'ont pas de noyau bien défini renfermé à l'intérieur d'une membrane. Alors ceux-là, on les appelle des procaryotes, parce qu'ils ont un noyau primitif, c'est ça que ça veut dire. Et dans ceux-là, il y en a aussi plusieurs catégories. Alors ceux qui sont les plus nombreux, et c'est de ceux dont je vais surtout vous entretenir ce soir, il y a les bactéries. La suivante, si vous voulez. Alors voilà un exemple de bactéries vues en microscopie électronique à balayage. Donc vous voyez la surface, et là vous avez les deux grandes formes de bactéries qu'on peut rencontrer, des bacilles, des petits bâtons, et puis des coques, ces petits chapelets que vous voyez. Et là vous avez des streptocoques et le célèbre Escherichia coli, qui sont des bactéries qui sont dans le tube digestif, et en particulier dans le tube digestif des nouveau-nés. Pendant quelques jours, vous n'aurez pratiquement que ces deux espèces bactériennes-là. La suivante, pour les voir d'un petit peu plus près, voilà les Escherichia coli vus d'un petit peu plus près. Ne croyez pas qu'ils soient verts et roses et bleus, hein. Ça, c'est purement des images électroniques et des fantaisies des informaticiens, mais ce n'est pas la réalité. En réalité, ils sont transparents. Ça serait, si vous essayez de les regarder comme ça, d'ailleurs, on ne voit rien, parce que c'est comme si vous regardiez un morceau de verre dans de l'eau, hein. C'est tout à fait transparent. Donc, il faut un certain nombre d'artifices pour les voir, et pourquoi pas les peindre dans des jolies couleurs plutôt que dans des vilaines couleurs. Donc ça, c'est donc le célèbre Escherichia coli, la bête de cirque qui a servi à fabriquer toute la biologie moléculaire moderne. Donc un bacille qui est dans le tube digestif de pratiquement tout le monde. La suivante, voilà un joli collier de streptocoque. Donc streptocoque, bête dans lequel, et on va y revenir tout à l'heure, vous pouvez à la fois trouver des streptocoques qui vont être dans le yaourt, hein. Il y a dans le yaourt avec les lactobacilles, il y a des streptocoques, donc des bactéries utiles, mais vous pouvez en trouver aussi comme celui-là, Streptococcus aureus, une bactérie qu'on va plutôt trouver dans des infections variées, et qui est donc une bactérie plutôt dangereuse. C'est aussi les streptocoques qu'on va vous trouver dans la gorge quand vous avez la scarlatine. Vous voyez que dans le même genre bactérien, il peut y avoir le meilleur et le pire, et on va y revenir tout à l'heure. La suivante. Et dans ces procaryotes, il n'y a pas que des bactéries, mais il y a d'autres micro-organismes, d'autres microbes encore. Il y a des beaucoup plus petits que ceux-là, qu'on appelle les virus, dont je ne parlerai pas beaucoup, mais dont je vous donne ici une image. Vous avez ici au milieu une coupe d'une bactérie, un streptocoque, en fait, une bactérie lactique. Et puis vous voyez tous les cheveux qui sont autour, là. Alors ces cheveux avec une espèce de tête au bout, et bien ça c'est des virus bactériens. Les virus sont des microbes qui ne peuvent pas se multiplier tout seuls, mais qui ont besoin de la machinerie d'une autre cellule pour produire leur propre substance. Alors, comme ils utilisent la machinerie d'une autre substance, forcément ils tuent cette autre cellule pour fabriquer leur propre substance. Donc ils sont toujours ennuyeux, et donc il y en a qui sont spécialistes pour tuer des cellules végétales, d'autres qui sont spécialistes pour tuer des cellules animales et ceux-là vont nous créer des maladies, et puis d'autres qui sont spécialistes comme ceux-là des cellules bactériennes et qui vont tuer les cellules bactériennes à leur tour et qui sont très gênants pour les gens qui font du yaourt ou des fromages parce que ça va leur détruire leur ferment lactique comme, ce que sont en train de faire ceux qui sont là. Et puis, il y a encore une autre catégorie, alors qui est beaucoup plus mystérieuse, ce sont les prions, dont on ne sait pas encore très très bien si ce sont des microbes ou pas des microbes, parce qu'on ne sait pas s'ils ont un noyau avec de l'acide nucléique ou non, mais on va le savoir rapidement. Enfin, pour l'instant, c'est assez gênant pour savoir ce qu'il faudrait faire pour supprimer tous les problèmes de vaches folles et de maladies à prions. La suivante. Alors, les microbes, on les connaît depuis, en fait, la fin du 17e siècle. Hein. Un des premiers à en avoir vu, et voilà les images qu'il en donnait, c'est un certain monsieur qui s'appelait Anthony von Leeuwenhoek et qui, de son naturel, était le concierge de l'hôtel de ville de Delft. C'était une sinécure qu'on donnait à quelques esprits puissants. Et alors ce monsieur-là, il fabriquait d'extraordinaires lentilles minuscules. On n'a jamais su comment il a réussi à faire ça, mais il y arrivait. Et avec ça, il arrivait à voir des bactéries. Alors là, par exemple, c'est ce qu'il voyait dans l'écume de ses dents. Il se grattait les dents, il regardait, puis il voyait des choses. Et ces choses sont des bactéries telles qu'on les connaît maintenant. Il a vu des bacilles que vous voyez ici. Il a dit, il y en a qui bougent, vous voyez, c'est ce qu'il dessinait comme ça. Il en a même vu qui ressemblaient à des vibrions comme ça. Il avait vu des choses comme ça à la fin du XVIIe siècle. C'est tout à fait extraordinaire, avec des instruments qu'on possède encore et qui sont incroyables. Mais disons que la grande explosion de la microbiologie, de l'étude des microbes, elle a eu lieu à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avec Pasteur. La suivante, alors c'est le moment où on a commencé à découvrir les bactéries et à considérer que ces bactéries étaient sûrement très méchantes. Et vous voyez là une caricature de la fin du XIXe siècle où il y a une Anglaise qui est censée regarder ce qu'il y a dans les eaux de la Tamise. Alors, vous voyez que ce n'était pas terrible déjà à l'époque et l'image qu'on en faisait était plutôt assez curieuse. Alors cela venait surtout des travaux de Pasteur, si on peut voir la suivante, des travaux de Pasteur qui, en fait, lui, Pasteur, n'était pas un médecin, c'était un chimiste. Et il avait surtout travaillé au départ plutôt sur les bactéries utiles, celles des fermentations, celles qu'on trouve dans l'aliment. Mais sa gloire, elle est venue à la fin de sa vie sur le fait qu'il a travaillé surtout sur des bactéries dangereuses, qui étaient la grande cause de mortalité de son époque, et que pour la première fois, on a compris comment on pouvait lutter contre ces bactéries dangereuses. Mais comme c'était ça qui était important, ben du coup, ces pauvres microbes en ont gardé une connotation négative qu'ils ont toujours jusqu'à aujourd'hui, et les autres sont passés un petit peu sous silence. On voit ici Pasteur qui examine la moelle d'un lapin enragé, et c'est d'ailleurs assez amusant parce que, en fait, ça a été la grande gloire de Pasteur de fabriquer un vaccin contre la rage. Et il est mort en pensant qu'il connaissait le microbe de la rage. Or, il n'a pas connu le microbe de la rage, parce que le microbe de la rage, c'était un virus, et qu'à son époque, on était incapable de voir des virus, donc il a cru que c'était une bactérie. Ça n'était pas vrai, mais il a eu de la chance, parce que les méthodes qu'il avait utilisées pour atténuer des bactéries et faire des vaccins marchaient aussi avec les virus, mais en réalité, il est arrivé à un résultat utile à partir de prémices qui étaient tout à fait fausses. Et il n'y en a pas le seul hein, dans les sciences, hein, d'autres, ça est arrivé à d'autres. suivante. Alors, je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur justement ces bactéries dangereuses, ces mauvais microbes dont on parle beaucoup ces temps-ci. Alors, pourquoi est-ce qu'un microbe est mauvais ? C'est pas si facile que ça à déterminer. Par exemple, vous allez me dire que quand vous avez un beefsteak sur lequel se développent des microbes et que ça commence à se liquéfier un peu, c'est sûrement des mauvais microbes et qu'il vaut mieux pas manger le beefsteak et qu'on n'a pas envie d'ailleurs de le manger. Alors c'est vrai, hein, vu de notre point de vue, c'est pas des bons microbes. Pourtant, ces mêmes microbes, si vous les laissez continuer, vont petit à petit transformer cette matière organique en matière minérale, en sels minéraux. Et ce sont ces minéraux qui vont être réutilisés ensuite par les plantes, qui ne savent pas utiliser autre chose, pour refabriquer la matière organique. Autrement dit, le cycle de la matière organique dépend spécifiquement de ces bactéries, qui, bien entendu, si vous les prenez telles que au moment où elles commencent à dégrader la matière organique, sont des bactéries dangereuses pour vous, des mauvais microbes. Mais si vous laissez faire la nature, quand vous fabriquez votre compost ou que vous mettez du fumier dans vos champs, eh bien, vous allez finir par obtenir des minéraux qui vont entretenir ce cycle de la matière organique, sans quoi nous ne vivrions pas sur la Terre. Donc vous voyez que selon le point de vue où vous vous placez, ces bactéries-là sont méchantes ou utiles. Ça dépend du point de vue. Alors, il y en a quand même un certain nombre qui sont carrément embêtantes. Il y en a quelques-unes qui sont très embêtantes parce qu'elles vont fabriquer des poisons, des toxines bactériennes. L'exemple type, c'est le clostridium du botulisme qui fabrique une toxine en se multipliant dans les aliments. Puis ensuite, vous intoxiquez avec la toxine qui est dans les aliments comme avec n'importe quel autre poison animal ou végétal. Puis ça, c'est donc ce qu'on appelle une intoxication. Puis vous en avez d'autres qui vont être méchantes parce qu'elles vont fabriquer des toxines pendant le moment où vous allez les avaler, pendant le moment où elles vont donc transiter dans votre tube digestif. C'est le cas, par exemple, de Clostridium perfringens, qui est souvent à la base de quantités d'intoxication alimentaire, pas très grave, mais ennuyeuse tout de même. Puis, vous en avez d'autres qui vont être très ennuyeuses parce qu'elles vont fabriquer des toxines ou quelquefois simplement à travers des enzymes en détruisant les cellules qu'elles vont rencontrer. C'est le cas, par exemple, des clostridium de la gangrène qui vont détruire les cellules, liquéfier les protéines à une vitesse d'ailleurs extraordinaire et donc vous créez beaucoup d'ennuis. C'est le cas du clostridium du tétanos, par exemple, qui va rentrer dans une plaie, s'y multiplier et fabriquer sa toxine à l'intérieur de cette plaie, toxine qui ensuite va voyager à travers le sang jusqu'au cerveau et vous créez aussi à ce moment-là de nombreux ennuis. Donc, toutes ces bactéries-là qui fabriquent des toxines d'une façon ou de l'autre sont dangereuses pour ça. Mais elles ne sont pas si nombreuses, celles qui font ça. Et quand vous y regardez de près, vous vous apercevrez que les bactéries qui sont dangereuses, eh bien, très souvent, elles sont dangereuses que dans des conditions tout à fait particulières. Il faut être deux pour qu'il y ait un danger qui se développe. Une bactérie qui crée des ennuis d'un côté, mais de l'autre côté aussi, un individu, un animal ou un homme, qui soit réceptif en face. Et je voudrais illustrer ça avec un exemple qui est là, que j'ai pris tout à fait au hasard, bien sûr, c'est celui de la listeria, monocytogénèse. Premier point, d'abord, il y a tout un tas d'autres listeria que monocytogénèse qui ne sont pas dangereuses du tout. Il y en a même une qui s'appelle listeria innocua, ce qui veut dire la listeria inoffensive en latin. Mais celle qui nous crée des ennuis, elle s'appelle listeria monocytogénèse. Vous l'avez vu tout à l'heure, vous la voyez encore. Là, c'est aussi une listeria, mais là, vous la voyez en coupe, en microscopie. Alors, pourquoi est-ce que c'est une bactérie ennuyeuse ? Ben, premier point, d'abord, c'est une bactérie qu'on trouve partout. On la trouve dans l'air, on la trouve dans le sol, on la trouve dans l'eau, on la trouve sur tous les aliments. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous avez tous ici, autant que vous êtes et moi avec, avalé entre 10 et quelques milliers de listeria. Alors, ne vous évanouissez pas, ça ne va pas vous créer pour l'essentiel des ennuis terribles. Et ce n'est pas la première fois que ça vous arrive non plus, hein, ça vous arrive extrêmement souvent. Alors, cette listeria, elle est ennuyeuse en fait pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle est capable de rentrer à l'intérieur des cellules. Donc, quand vous les avalez, elle va traverser la paroi du tube digestif, puisqu'elle va rentrer dans les cellules, puis elle va se retrouver de l'autre côté, et elle va généralement être attrapée par des cellules dont c'est le métier, hein, des macrophages, qui sont de l'autre côté. Et puis, une fois qu'elle va être dedans, ça va être une course de vitesse entre la bactérie et le macrophage. Il y en a un des deux qui va gagner, ou le macrophage va tuer les bactéries, ou les bactéries vont tuer le macrophage. Et alors, justement, la listeria, elle est particulièrement résistante au macrophage, et de temps en temps, elle arrive à ne pas être tuée par le macrophage, à se développer dedans, et à ce moment-là, on crée un foyer d'infection, puis elle va être véhiculée par le sang, et elle est vers ses endroits de prédilection, qui sont en particulier le cerveau. Elle va vous créer un certain nombre de paralysies. S'il s'agit d'une femme enceinte, elle va passer dans le placenta, puis du placenta dans le fœtus, puis dans le fœtus, elle va de nouveau aller dans son endroit de prédilection qui est le cerveau et va créer des anomalies qui sont souvent absolument dramatiques. Ça, c'est le premier point. Dieu merci, ça n'arrive pas très souvent parce qu'en général, quand même, ce sont les cellules de défense qui l'emportent sur la bactérie. C'est pour ça que vous n'avez pas des ennuis perpétuels avec les listeria. Et il faut que vous soyez dans une situation où ces cellules défensives, où vos défenses immunitaires donc, se sont abaissées. C'est le cas de la grossesse quand on est dans le dernier trimestre, c'est le cas des gens quand ils sont très âgés, c'est le cas des gens qu'on a déprimés, immunodéprimés artificiellement en leur donnant des drogues parce qu'ils en avaient besoin, parce qu'il fallait, ils avaient des problèmes de virus de sida ou d'autres choses de ce genre-là. Donc si vous êtes dans ces situations-là, bien sûr, vous risquez d'avoir un système immunitaire déprimé, donc que ce soit cette fois-ci la bactérie qui l'emporte sur les cellules chargées de les détruire. Autre caractéristique embêtante de cette bactérie, c'est que comme elle a pris l'habitude de se multiplier dans ses cellules qui la stressent violemment, eh bien, elle fabrique quantité de systèmes pour se défendre contre les stress. Et en particulier, elle a un système très efficace pour se défendre contre le stress au froid et elle se multiplie à des températures relativement basses, de l'ordre de 5 degrés, 6 degrés, Ça ne va pas vite hein, quand c'est à 5 degrés, vous ne risquez pas grand-chose. Mais quelquefois, quand vous regardez dans vos réfrigérateurs, ce n'est pas exactement à 5-6 degrés, ça peut être à 10 degrés, ça peut être quelquefois un peu plus. On l'ouvre, on le ferme, quand on a des petits-enfants, je sais ça, ils l'ouvrent, ils le laissent ouvert. Enfin bon, il y a des situations où à ce moment-là, ça peut se multiplier plus vite. Et bien entendu, plus vous allez en avaler, et bien plus vous allez avoir besoin de cellules pour les éliminer, et plus vous allez avoir de risques qu'il y en ait, qui échappent à ces cellules, et vous ayez des ennuis avec. Donc vous voyez que, intrinsèquement, une listeria, c'est une bactérie dangereuse, mais ça n'exerce sa pathogénicité que dans des cas tout à fait particuliers, quand il y a un déséquilibre entre l'hôte, l'individu, et la bactérie, et pas toujours, heureusement. Et c'est pour ça que nous sommes capables de vivre dans un milieu où il y a beaucoup de bactéries dangereuses. Il y a aussi un certain nombre de facteurs génétiques qui sont importants pour se défendre contre les bactéries, mais dont l'importance dépend beaucoup du point de vue auquel vous vous placez de nouveau. Je vous redis ça aussi pour vous montrer l'aspect ambigu des choses. Je pense par exemple aux salmonelles et aux poulets. Tout le monde sait qu'on a des ennuis avec les salmonelles, qui sont des bactéries pathogènes. Je crois que j'en ai une image, la prochaine. Vous verrez comme elles sont jolies. Hein, avec des espèces de petites fibres, oui, tout autour, là, ce qui en fait sont des flagelles qui leur permettent de se déplacer. Et ces salmonelles, vous savez qu'elles se développent chez le poulet, qui nous les transmet à travers les œufs très souvent. Eh bien, en réalité, on connaît des souches de poulets qui sont résistantes aux salmonelles et des souches de poulets qui sont sensibles aux salmonelles. Alors, on peut se dire, c'est mieux d'être résistant aux salmonelles. Alors, effectivement, vu du côté du poulet, c'est mieux d'être résistant aux salmonelles que d'être sensible aux salmonelles. Vu du côté de l'éleveur du poulet, c'est mieux aussi que son troupeau ne soit pas décimé par les salmonelles. Mais en réalité, vu du côté du consommateur, mieux vaut que les poulets soient sensibles aux salmonelles, parce que sinon, s'ils sont sensibles aux salmonelles, ils sont tués par les salmonelles et ils ne vont pas arriver jusqu'au consommateur. Et ce qui arrive au consommateur, c'est les poulets résistants aux salmonelles, transportant leurs salmonelles avec eux et qui vont vous les passer. Donc selon que vous êtes placé d'un côté ou de l'autre, ça peut être utile ou pas d'être résistant aux salmonelles. Et alors le défi de mes collègues de l'INRA, c'est d'essayer de trouver des lignées de poulets qui soient résistantes aux salmonelles, mais qui ne soient pas porteuses de salmonelles et qui, par conséquent, ne vous créent pas les ennuis qui existent encore. Alors, tout ça, ça concerne donc les bactéries dangereuses. Et maintenant, je voudrais arriver rapidement aux bactéries qui sont plus utiles. En réalité, il y a deux grands écosystèmes bactériens dans le monde auxquels nous sommes confrontés. Le premier, c'est celui du sol, si on peut avoir les premières images. Je vais passer très vite, parce qu'on vous en a déjà parlé d'ailleurs dans une précédente conférence. Les bactéries du sol, elles sont extrêmement nombreuses dans tous les sols cultivés. Et l'image que je donne souvent, c'est de dire que quand vous regardez un champ de blé mûr, avec le blé au-dessus, eh bien, finalement, vous avez à peu près autant de matière organique sous la terre, sous forme de bactéries, qu'au-dessus de la terre, sous forme de culture. Et que quand vous cultivez les champs, quand vous labourez, l'objectif, c'est d'aérer la terre pour faire pousser quoi ? Pour faire pousser les bactéries, hein, beaucoup plus que pour faire pousser les plantes. C'est elles qui ont besoin d'oxygène, de l'air pour se multiplier, et puis pour transformer la matière organique, le fumier que vous leur avez donné, en matière minérale qui sera utile aux plantes. Hein. Donc là, il y a une énorme masse bactérienne auquel nous sommes confrontés et qui est extrêmement utile. Sans elles, nous ne pourrions pas vivre. Et en particulier, elles ont un rôle tout à fait important dans la fixation de l'azote. Vous savez que nous sommes faits essentiellement de protéines et d'azote et que sur la Terre, la seule réserve d'azote, c'est l'azote de l'air, l'azote de l'atmosphère, mais nous ne savons pas fixer cet azote de l'air. Seules les bactéries du sol savent le faire, et celles qui savent le faire le mieux, c'est celles qui sont associées à un certain nombre de plantes, comme les légumineuses. Et vous voyez ici ces espèces de petits globules sur la racine de pois qui est là. Eh bien, c'est dû, ça, à des bactéries qui fixent l'azote de l'air, qui vont fabriquer à partir de ça des substances qui vont nous permettre, ce qui va permettre à la plante d'abord, puis aux animaux ensuite, de synthétiser leurs protéines. La suivante, c'est la même chose, c'est encore une racine, mais de soja cette fois-ci, avec ces espèces de petits nodules bourrés de bactéries qui vont capturer l'azote de l'air, et sans quoi nous ne pourrions pas vivre, parce que nous n'aurions plus d'azote à notre disposition. Donc celles-là sont vraiment indispensables à la survie de l'humanité sur la Terre. Et puis, l'autre grand écosystème dont je voudrais vous parler un tout petit peu plus, ce sont les bactéries du tube digestif, les bactéries qui sont à l'intérieur de notre organisme. En effet, dès l'instant de notre naissance, disons que dès le soir du premier jour, l'enfant ou l'animal naît sans bactéries, mais après 24 heures, il va être associé à une population bactérienne qui est de l'ordre de 100 000 milliards de bactéries. Bon, ces milliards, c'est des chiffres qui disent rien à personne, mais une image qui est quand même importante à retenir, c'est que si vous comptez d'une part toutes les cellules dont vous êtes fabriqué, les cellules, les neurones de votre cerveau, les cellules de vos muscles, les cellules de votre peau, tout ça, vous additionnez et vous arrivez à un chiffre, c'est la diapositive suivante, vous arrivez à un chiffre qui est de 10 puissance 13 cellules. Et puis si de l'autre côté, vous comptez toutes les bactéries que vous avez à l'intérieur de votre tube digestif, vous arrivez à un autre chiffre qui est de 10 puissance 14 cellules, c'est-à-dire qui est de 10 fois plus élevé. Autrement dit, vous transportez 10 fois plus de bactéries dans votre tube digestif que de cellules pour faire tout le reste de votre organisme. Vous êtes un fermenteur extraordinaire, bien meilleur que tout ce que les biotechnologies modernes ont inventé. Et comme disaient mes collègues américains, en plus, c'est un fermenteur ambulant. Hein, vous seul qu'on connaisse, vous marchez, un fermenteur auto-reproductible, hein, il fait des petits, et un fermenteur biodégradable, puisque à la fin, finalement, c'est quand même bien les bactéries qui auront raison des 10 puissance 13 cellules qui font le reste de votre corps. Donc, c'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Alors, à partir de la diapositive suivante, je vous invite un peu à visiter l'intérieur de votre tube digestif, comme le gouffre de Padirac, en rentrant par le haut, en sortant par le bas. Alors, je vous épargne la bouche où il y a beaucoup de bactéries dans les dents, dont on peut discuter de l'utilité quelquefois quand on entend la roulette du dentiste, mais elles jouent un rôle important, hein, ça je peux vous garantir. Et puis, on arrive dans l'estomac. Alors, dans l'estomac, vous voyez, là, on est à l'intérieur de l'estomac et on voit des bactéries qui sont fixées sur la muqueuse de l'estomac. Alors, en fait, ça, c'est pas de l'homme, c'est de la souris. Chez l'homme, il y a très peu de bactéries dans l'estomac parce que l'homme est un animal tout à fait spécifique. Il a un estomac extrêmement acide, où on fabrique beaucoup d'acide chlorhydrique. Et ça évite la multiplication de la plupart des bactéries. Mais chez beaucoup d'autres animaux, chez le porc, chez la souris, vous avez des bactéries dans l'estomac, comme celles que vous voyez ici, qui sont des lactobacilles d'ailleurs. La suivante. Alors si je descends un petit peu plus bas, je suis dans l'intestin grêle. Alors, l'intestin grêle, c'est le tube qui vient ensuite. Alors ce n'est pas exactement comme un tube d'arrosage. À l'extérieur, c'est un peu pareil, mais à l'intérieur, c'est un tube d'arrosage qui serait tapissé par une moquette. Hein, donc il y a plein de poils à l'intérieur qui augmentent considérablement la surface. C'est ce qu'on appelle des villosités. Alors, vous voyez ici l'extrémité d'une de ces villosités avec les cellules que vous devinez. Vous voyez ici du mucus qui est sécrété par la villosité pour que ça se lubrifie, que ça coule bien là-dedans. Et puis il y a à ce niveau-là relativement peu de bactéries, quelques-unes qui sont fixées ici sur les villosités, parce que celles qui ne sont pas fixées, elles s'en vont avec le bol alimentaire pour arriver à se retrouver dans le bas, là où il y a un niveau de stase, c'est-à-dire dans le gros intestin, et là vous commencez à avoir des nombres de bactéries extraordinairement élevés, de l'ordre, je vous disais tout à l'heure, de 1000 milliards par gramme, et ça fait un feuilletage très épais. Vous voyez ici des bactéries dans le gros intestin, vous voyez ici une bactérie avec une espèce de forme ici, de forme de résistance qui est à la déforme à l'extrémité. La suivante, vous voyez ici un feutrage de bactéries à l'intérieur du gros intestin. Vous voyez que c'est extrêmement dense. Quand on regarde le contenu des matières fécales d'un homme ou d'un animal, en gros, 50% de la matière sèche, ce sont des bactéries. Hein, la moitié, à peu près. La suivante, c'est les mêmes vues d'un peu plus près, je vous assure, ce n'est pas des ascaris, ce n'est pas des vers, c'est vraiment des bactéries, mais vues de façon un peu grosse, telles que vous pouvez les avoir à l'intérieur de votre gros intestin. Alors, à quoi servent ces bactéries? Jouent-elles un rôle positif ou un rôle négatif? Eh bien, dans l'ensemble, elles jouent un certain nombre de rôles positifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles jouent des rôles positifs au niveau nutritionnel. Elles vont en particulier vous aider à digérer toute une série de produits que vous ne savez pas digérer dans votre intestin grêle, mais que vos bactéries, elles, vont récupérer à la fin et vont transformer en choses absorbables et utilisables par vous. Alors, il y a des animaux qui savent faire mieux que ça que nous encore, ce sont les ruminants, parce que les ruminants, eux, ils ont une grosse panse, un gros réservoir qui est situé en amont de leur estomac, il serait par rapport à nous, donc en avant de l'estomac. Et alors, là-dedans, c'est bourré de bactéries, et ces bactéries-là vont utiliser ce qui est la source essentielle, sinon unique, d'énergie pour un ruminant, c'est l'herbe. Et dans l'herbe, le sucre essentiel, c'est la cellulose. Or, aucun animal, ni herbivore, ni pas herbivore d'ailleurs, ne sait utiliser la cellulose, n'a les enzymes nécessaires pour couper la cellulose en petits morceaux absorbables. Seules les bactéries savent le faire. Donc, si les herbivores existent, c'est parce que les bactéries qui sont dans leur panse ont, elles, des celluloses, découpent les sucres en petits morceaux, et à ce moment-là, les herbivores, donc les ruminants, absorbent ces produits qui ont été fabriqués par les bactéries de la panse. Donc, dans cette chaîne alimentaire, le passage, vous voyez, des plantes aux animaux, et donc de la matière organique plante à la matière organique animale qui se fait par les herbivores, en réalité, elle se fait essentiellement, là encore, par les bactéries situé entre les deux. Nous avons aussi, nous, quelques bactéries capables d'utiliser la cellulose, mais elles sont placées un peu trop bas pour que ce soit très utile, donc on ne peut pas se nourrir de papier et d'herbe éternellement, il faut qu'on ajoute d'autres choses un peu plus utilisables. Alors, il y a un autre rôle très important que jouent ces bactéries du tube digestif, c'est ce que j'appellerais le rôle de gendarme par rapport aux bactéries de l'extérieur. En effet, le tube digestif, c'est un tube, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est ouvert aux deux bouts, et que vous faites pénétrer là-dedans quantité de bactéries exogènes, quantité de microbes qui viennent de l'extérieur. Hein, quand vous respirez l'air de cette salle, on introduit pas mal de bactéries à l'intérieur de son organisme. Quand vous mangez un radis ou une feuille de salade, ça doit tourner autour de quelques millions, même si vous les avez bien, lavés, plutôt sans doute quelques dizaines de millions. Si vous embrassez votre petite amie, alors là, j'ose même pas y penser à ce qui peut vous arriver. Et alors, quand vous avalez un yaourt, cette fois-ci, c'est quelques milliards de bactéries que vous introduisez à l'intérieur de votre tube digestif. Alors, ces bactéries-là, elles ne vont pas se développer à l'intérieur du tube digestif. Heureusement, si à chaque fois que vous avalez un yaourt, vous vous transformiez en yaourt, ce serait très gênant pour vous. Alors, pourquoi est-ce que ça ne se transforme pas? Eh bien, parce que les bactéries qui sont là, dans la flore, de ce qu'on appelle la flore dominante du tube digestif, on va voir ce que c'est dans la diapositive suivante, les bactéries qui sont là, dans cette flore dominante, jouent un rôle de gendarme, ou plutôt, il y a un certain nombre d'entre elles, dans cette flore dominante, qui sont des spécialistes pour s'opposer à la multiplication des bactéries qui arrivent de l'extérieur, et en particulier pour s'opposer à la multiplication de toutes celles qui sont les plus dangereuses, de toutes celles qui pourraient être pathogènes. Et ça, c'est la première raison pour laquelle nous survivons dans un milieu où il y a quand même beaucoup de bactéries dangereuses, sans que, à chaque fois que nous en avalons une, nous devenions malades. La plupart du temps, ces bactéries-là, elles rentrent et puis elles sont éliminées par les autres, ou du moins par celles qui sont spécialistes de l'élimination des bactéries exogènes à l'intérieur du tube digestif. Alors là, j'ai représenté une image qui donne ici le nombre de chacun des genres bactériens importants qu'on peut trouver à l'intérieur du tube digestif. Donc, vous voyez, 10, 9 étant le milliard, 10, 10, 10 milliards, 10, 11, 100 milliards. Donc, vous voyez qu'on est de l'ordre de la centaine de milliards de bactéries par gramme de contenu du gros intestin pour celles qui sont les plus abondantes. Hein. Et ça, comme 100 milliards ne dit pas grand-chose à grand monde, j'ai mis ici que ça représentait à peu près le nombre d'individus sur la Terre depuis l'apparition de l'homme sur la Terre. Hein. Mais là-dedans, il y en a des très abondantes, puis il y en a d'autres qui sont très peu abondantes. Et le célèbre Escherichia coli qu'on mettrait ici dans les entérobactéries, chez l'adulte, il n'est pas important du tout et il représente, vous voyez, la population de Paris par rapport à tous les hommes depuis l'origine des temps, donc c'est finalement pas grand-chose. Et du coup, il ne joue pas de rôle très important. Et celles qui sont très importantes pour nous, et en particulier toutes celles qui jouent ce rôle de gendarme dont je parlais tout à l'heure, eh bien celles-là, ce sont celles qui sont dans la catégorie des bactéries violettes, là, qui sont ce qu'on appelle des bactéries anaérobies strictes, c'est-à-dire des bactéries qui ne supportent pas le contact avec l'oxygène de l'air, qui ne poussent pas en présence d'oxygène de l'air. Du coup, les microbiologistes en ont horreur parce qu'elles sont compliquées à cultiver, il faut avoir des systèmes sans air pour les multiplier, mais néanmoins, ce sont celles-là qui jouent des rôles extrêmement importants. Alors, je voudrais terminer, il doit me rester à peu près... ça va, j'ai encore le temps. Donc, je voudrais terminer maintenant en vous parlant d'une dernière catégorie de bactéries, et plus exactement de microbes, et plus exactement de bactéries, qui sont ceux que j'appelle les microbes domestiqués. Alors, qu'est-ce que c'est que les microbes domestiqués? Eh bien, il y a déjà bien longtemps que de façon consciente ou de façon inconsciente, les hommes ont commencé à domestiquer les bactéries pour améliorer leur ordinaire. Soit pour essayer de trouver des produits qui ont un meilleur goût, soit pour essayer d'améliorer la conservation de leur alimentation. Alors, ce qu'on connaît depuis les temps les plus anciens, ce sont les bactéries qui, enfin ce ne sont pas les bactéries, dans ce cas-là, ce sont essentiellement des levures, mais il y a aussi des bactéries qui fabriquent de l'alcool, hein, depuis Noé, c'est connu, donc ce n'est pas hier la veille, et ça, ce sont des microbes qui vont fabriquer des produits qui ne sont pas spontanément présents sur la Terre et dont nous trouvons qu'ils ont un certain intérêt, comme l'alcool. Mais je ne vais pas beaucoup vous parler de cela, je vais essayer de développer un peu plus le problème de ce qu'on appelle les bactéries lactiques, c'est-à-dire des bactéries qui utilisent, qui ont en commun de toutes fabriquer un produit terminal qui s'appelle de l'acide lactique, et qu'elles fabriquent essentiellement à partir des sucres. Celui qu'elles utilisent le plus volontiers, c'est le sucre du lait, qu'on appelle lui le lactose, et qu'on ne trouve guère ailleurs que dans le lait. Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé depuis longtemps ces bactéries lactiques dans les produits laitiers? Eh bien, on les a utilisées parce qu'on s'était aperçu de la chose suivante. Quand des bactéries lactiques, il y en a en gros deux grands genres, des lactobacilles et des streptocoques, quand ces bactéries lactiques se développent dans le lait, elles utilisent le lactose du lait, elles fabriquent de l'acide lactique, donc le lait s'acidifie. En s'acidifiant, il se déstabilise. Et ce qu'on déstabilise, c'est essentiellement la partie protéique du lait, ce qu'on appelle les caséines, hein, les micelles de caséine du lait. À ce moment-là, elles précipitent et on dit que le lait coagule. Donc on a une partie protéique coagulée et acide, puisque ça a été coagulé avec de l'acide lactique. Or, une fois qu'on a ces protéines sous cette forme acide, on va pouvoir, on s'est aperçu ça depuis longtemps, on va pouvoir les conserver beaucoup plus longtemps que normalement, et en particulier on pourra les conserver pendant l'hiver, pendant des périodes où on n'a pas autre chose à se mettre sous la dent, et on peut les conserver pendant longtemps parce que les bactéries de la putréfaction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont elles avoir pour conséquence de couper ces protéines en morceaux, sont plutôt des bactéries qui se développent dans des milieux au contraire alcalins. C'est des milieux, elles fabriquent souvent de l'ammoniac elles-mêmes et donc sont habituées à résister à des milieux alcalins. Donc si le milieu est acide, elles ne vont pas se développer, ou en tout cas, elles vont se développer très longtemps. Donc ces bactéries lactiques, au départ, on les a utilisées pour conserver les protéines du lait pendant longtemps. De la même façon d'ailleurs qu'on les a utilisées pour conserver les protéines du chou pendant l'hiver, quand on faisait de la choucroute, c'est les mêmes bactéries d'ailleurs qu'on trouve dans un cas comme dans l'autre. Et puis, ce n'est que secondairement qu'on a commencé à dire, ben, en triant dans ces bactéries, on en trouve qui toutes font de l'acide lactique, mais elles font aussi d'autres choses qui peuvent donner des goûts intéressants aux produits qu'on va donner. Et c'est pour ça que tous nos fromages n'ont pas le même goût, c'est pour ça que tous nos yaourts n'ont pas la même consistance. Vous avez des yaourts filants, vous savez, ceux dont on dit qu'ils sont le goût bulgare. Alors ceux qui sont filants, eh bien, c'est simplement parce que les quelques milliards de bactéries qui sont à l'intérieur se fabriquent chacune une espèce de grosse coque muqueuse, hein, c'est un mucus un peu gluant, elles forment une grosse coque muqueuse et tout ce mucus qui s'ajoute dans le yaourt donne cet aspect filant au yaourt. Je ne veux pas vous dégoûter des yaourts, mais c'est la stricte réalité. De la même façon, quand vous achetez du beurre avec un goût de noisette, c'est parce que dans les bactéries qu'on a choisies pour maturer la crème, eh bien, on en a mis qui produisent une substance chimique qui donne ce goût de noisette. Et donc, en choisissant ces bactéries, en sélectionnant ces bactéries, on arrive à avoir un éventail de production qui est tout à fait différent. Donc, on a des produits qui se conservent et puis qui ont bon goût, eh bien, ça a duré longtemps, hein, ça a eu du succès pendant longtemps. Et puis, non seulement ça a eu du succès pendant... je peux regarder l'image suivante qui va vous montrer ces bactéries qui ont eu du succès pendant longtemps. Voilà les lactobacilles qui sont ici, voilà les streptocoques que vous voyez ici, qu'on appelle maintenant des lactocoques d'ailleurs, et les petits grains que vous voyez tout autour, eh bien, ce sont les grains de caséine du lait qui ont été précipités par l'action, par l'acidité de ces bactéries une fois qu'elles ont eu mangé le lactose et qui ont fait cette précipitation, ce cahier lactique qui est la base du yaourt, mais qui est aussi le point de départ de pratiquement tous les fromages. Hein. Commence par coaguler le lait de cette façon-là, encore qu'on y ajoute aussi un autre système de coagulation par une enzyme qu'on prend, la présure qu'on prend dans l'estomac des veaux. Mais tous nos fromages sont soit de coagulation lactique pure au départ, soit de coagulation mixte lactique et présure aussi. Alors, ces bactéries lactiques, une fois qu'on s'est dit elles sont bonnes, pour toutes ces raisons que je vous ai indiquées, on s'est même mis à se dire, ne seraient-elles pas aussi bonnes pour la santé ? Et ça, c'est devenu tout à fait à la mode de vouloir fabriquer des bactéries qui sont utiles pour la santé. Alors, ce n'est pas nouveau de se dire, par exemple, quand vous avez pris des antibiotiques, eh bien, il faut que vous mangiez du yaourt pour refaire votre flore qui a été détruite par les antibiotiques. Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'effectivement, les antibiotiques détruisent votre flore de votre tube digestif. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'ils détruisent en même temps ces effets de barrière à l'égard des bactéries dangereuses dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que quand vous prenez des antibiotiques, ben, vous savez bien que souvent, vous avez des ennuis digestifs, hein, des diarrhées, des coliques, des trucs comme ça. Et ben, ça veut dire tout ça tout simplement que vous avez détruit vos bactéries gendarmes et puis que les bactéries dangereuses qui jusque-là étaient réprimées par les autres, ben, réapparaissent à un niveau élevé et vous crée un certain nombre d'ennuis. Alors, on se disait, de façon un peu innocente, eh bien, on va réparer ça en donnant aux gens des bactéries lactiques et prenez donc des yaourts, puisque c'est là-dedans qu'il y en a. Alors, c'est une idée un peu simplissime, mais un peu trop simple quand on y regarde, parce que en réalité, les bactéries, celles-là, hein, les bactéries, les lactobacilles et les streptocoques là, du yaourt, il n'y en a pas dans le tube digestif. Il y en a extrêmement peu chez l'homme, et ceux qu'il y a ne sont pas les mêmes espèces que celles-là. Donc c'est une idée un peu singulière de vouloir réparer la flore avec quelque chose qui n'y était pas au départ. Et puis, la deuxième chose, c'est que les effets de barrière exercés par vos bactéries gendarmes, elles continuent à s'exercer, et vous avez beau leur expliquer que ces bactéries-là, vous voudriez bien qu'elles se multiplient parce qu'elles sont très utiles et que vous avez acheté chez le pharmacien, que donc elles doivent être très bonnes, etc., etc., et bien, elles ne veulent rien entendre, vous les avalez, elles rentrent par un bout, elles sortent de l'autre, mais elles ne s'impendent pas plus que les autres. Donc, vous ne pouvez pas espérer que vous allez réparer votre flore avec la flore du yaourt, et d'ailleurs, c'est plutôt mieux comme ça pour vous. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure que ces bactéries qui transitent à l'intérieur du tube digestif, elles transitent parce qu'elles sont éliminées par les bactéries gendarmes du tube digestif, mais ces bactéries gendarmes, dans l'immense majorité des cas, ne tuent pas les bactéries qui rentrent à l'extérieur. Simplement, elles les empêchent de se multiplier. On dit que les bactéries sont en bactériostase. Elles les empêchent de se multiplier, ce qui veut dire qu'elles rentrent par un bout, elles sortent par l'autre, sans se multiplier, donc sans s'installer, mais pendant la durée du transit, elles continuent à fabriquer des métabolites, elles continuent à utiliser ce qu'elles vont trouver pour se mettre sous la dent. Donc elles peuvent avoir une activité pendant la durée de ce transit. Ça, c'est ce qu'on appelle des bactéries utilisées comme probiotiques, un mot qu'on a inventé il n'y a pas très longtemps, et dont on pense qu'à ce moment-là, elles peuvent avoir des effets positifs sur la santé. Je voudrais vous en donner un exemple dans, je pense que c'est la diapositive suivante, que voilà, qui est un petit peu plus compliquée, mais que je voudrais vous décrire. Alors, en fait, quand vous avalez ce fameux lactose du lait dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne se trouve que là, eh bien, le lactose, vous ne pouvez pas l'absorber dans votre tube digestif, dans votre intestin grêle, en tout cas, vous ne pouvez pas l'absorber tel que. Il est fait de deux molécules de sucre simple, et donc il vous faut, dans votre tube digestif, une enzyme qu'on appelle la lactase et qui coupe le lactose en deux morceaux et vous absorbez chacun de ces deux morceaux. Mais un certain nombre d'entre nous n'ont pas de lactose, tous les bébés en ont, mais petit à petit ça diminue, chez certains ça diminue plus vite que chez les autres, et nous n'avons plus de lactase. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, on ne peut plus absorber le lait, enfin la lactase du lait, et en général, on dit à ce moment-là qu'on devient intolérant au lactose. Alors pourquoi intolérant au lactose ? Parce que le lactose qui n'est pas absorbé dans l'intestin grêle continue son chemin, arrive dans le gros intestin au contact avec les bactéries. Alors celle-là, elle se jette dessus, elle le découpe en 36 morceaux, le métabolise, le transforme, et fabrique avec ça un certain nombre de substances qui ne sont pas forcément toutes très utiles. Il faut fabriquer, par exemple, beaucoup de gaz, vous allez gonfler, des flatulences, ça peut être gênant, vous allez avoir, et ça peut être pire, parce que pour les gens qui sont vraiment très intolérants au lactose, ça se traduit par des désordres digestifs qui sont prononcés, en particulier par des diarrhées qui peuvent être dangereuses, en particulier chez les enfants. Donc, si vous êtes intolérant au lactose, si vous n'avez pas de lactase dans votre intestin grêle, le lactose arrive dans votre gros intestin. Et à ce niveau-là, dans votre gros intestin, donc, ces bactéries, entre toutes ces molécules plus ou moins nuisibles qu'elles fabriquent, en fabriquent une qui n'est ni très nuisible ni très utile, mais qui est l'hydrogène, qui est un produit de fin de chaîne. Le lactose, il y a de l'hydrogène dedans, les bactéries fabriquent l'hydrogène. Cet hydrogène, il est absorbé, passe dans la circulation, passe dans les gaz respiratoires, et vous le rejetez. Donc, si vos bactéries utilisent le lactase, et si on mesure la quantité d'hydrogène que vous soufflez, on vous fait souffler dans un ballon, puis on mesure s'il y a de l'hydrogène dans les gaz que vous expirez, eh bien, ça veut dire que vous avez des bactéries qui ont utilisé le lactose dans votre tube digestif, et puis qui en ont fabriqué de l'hydrogène. Donc ça, c'est ce qu'on fabrique ici. On donne à des gens, alors on va faire ça chez des gens qui sont intolérants au lactose, qui n'ont pas de lactase dans leur intestin grêle, on leur donne une certaine quantité de lactose dans de l'eau. Alors, ce lactose, et puis toutes les demi-heures, vous voyez, 30, 60, 90 minutes, etc., toutes les demi-heures, on les fait souffler dans un ballon et on mesure la quantité d'hydrogène. Et si on voit apparaître de l'hydrogène, ça veut dire qu'il y a du lactose qui est arrivé jusque dans leur gros intestin au contact avec les bactéries. Alors, au départ, eh ben, vous voyez qu'il n'y a pas d'hydrogène parce que le lactose n'est pas encore arrivé jusqu'en bas. Il y a quand même 7-8 mètres hein, à faire, alors faut que ça ne va pas si vite que ça. Donc, il faut arriver au bout. Et puis, à un moment donné, ça arrive. À partir du moment où le lactose rentre en contact avec les bactéries, vous voyez apparaître de l'hydrogène. Et puis, petit à petit, tout le lactose est passé et l'hydrogène diminue. Et donc, l'air qui est sous la courbe, la surface qui est là, est en fait proportionnelle à la quantité d'hydrogène que vous avez expiré, donc à la quantité de lactose qui est arrivée à l'intérieur de votre tube digestif. Alors, on peut faire ça donc avec du lactose dans de l'eau, on peut faire ça aussi avec du lactose dans du lait, vous voyez que c'est la même chose, vous êtes intolérant au lactose. Alors, c'est un peu décalé dans le temps parce que le lait va passer moins vite que l'eau, mais c'est la même chose, vous n'utilisez pas le lactose dans votre intestin grêle, c'est vos bactéries qui l'utilisent dans votre gros intestin. Mais si vous donnez la même quantité de lactose, cette fois-ci dans un yaourt, au lieu de le donner dans du lait, eh bien vous voyez que vous ne voyez plus apparaître d'hydrogène dans les gaz expirés. Ça veut dire que votre lactose, que le lactase, Oui, ça va être dur. Mais ça veut dire que le lactose que vous avez absorbé a été dégradé avant d'arriver aux bactéries. Il a été dégradé par les bactéries du yaourt pendant la durée de leur transit. Hein, vous avez avalé les bactéries du yaourt. Pendant le moment où elles transitaient dans votre intestin grêle, elles ont découpé votre lactose en morceaux que vous avez absorbés. Et donc, vous n'avez pas de problème. Donc, si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez quand même manger des produits laitiers, à condition que ce soit des produits fermentés comme un yaourt, et vous pouvez en tirer tous les avantages qu'il peut y avoir dans les produits laitiers, entre autres choses, le fait que c'est certainement de très loin la meilleure source de calcium pour vos os. Donc, vous voyez que pendant la durée du transit, des bactéries, même si elles ne s'installent pas dans le tube digestif, peuvent avoir un rôle positif. Et on cherche à leur trouver d'autres rôles positifs. On pense en particulier que c'est un certain nombre de ces bactéries sont capables de stimuler les défenses immunitaires locales et de vous rendre plus résistant à un certain nombre de microbes dangereux si vous les faites transiter de cette façon-là. Et puis, on cherche à savoir s'il n'y a pas d'autres microbes qui peuvent avoir des intérêts majeurs. Alors, il y en a un qu'on a découvert depuis déjà un petit moment. C'est mon temps, là. Je vais terminer. Vous me mettez la dernière diapositive, là. Celle-là, c'est une bactérie, vous voyez, avec en Y. Eh bien, c'est le célèbre bifidobacterium, les bifidus, et vous connaissez tous les yaourts aux bifidus. Alors, pourquoi est-ce qu'on met des bifides dans les bactéries? Ben, ça... Je ne sais pas très bien pourquoi, à vrai dire, hein, pour vous. Donc je vais avoir du mal à vous convaincre profondément. La raison est plutôt un type de syllogisme, vous savez. Quand on regarde chez les enfants, on s'aperçoit que tous les enfants qui boivent le lait de leur mère ont des bifides, comme ça, des bifidobactéries dans leur tube digestif. Et on sait que tous les enfants qui boivent le lait de leur mère ont moins de diarrhée que s'ils boivent des laits maternisés. Donc on en déduit que c'est les bifides qui font qu'ils ont moins de diarrhée. Mais on ne l'a jamais vraiment démontré, on a plutôt démontré le contraire, et j'ai pourtant fait de louables efforts pour ça, personnellement. Mais donc, j'ai pas d'argument très fort pour le yaourt au bifide, si ce n'est que c'est certainement pas dangereux. Vous pouvez en manger en toute confiance. Mais on trouvera sûrement d'autres microbes tout à fait utiles à faire transiter dans le tube digestif pour vous maintenir en bonne santé, et beaucoup de gens travaillent activement là-dessus. Voilà, alors je voudrais simplement en conclusion, j'espère en tout cas que je vous ai convaincu qu'il y avait beaucoup de bactéries utiles sur la Terre. C'est d'ailleurs eux qui font le gros de la biosphère, de la masse organique de la Terre. Nous ne sommes qu'un tout petit morceau, nous, mais les bactéries sont bien plus abondantes que nous. Alors naturellement, il y en a aussi des ennuyeuses, il faut essayer de s'en débarrasser. Je pense qu'on finira bien par y arriver, mais j'espère bien qu'on ne se débarrassera pas de tous les microbes, parce que ce jour-là, c'est nous qui disparaîtrons avec. Merci de votre attention.
Bien, je vous engage à poser des questions. Des micros circulent dans la salle, levez la main, et voilà une question là-haut, par exemple, et une autre là.
Si l'on ne s'éloigne pas trop de l'objet de la conférence, pourriez-vous nous dire quelques mots de l'action des antibiotiques sur les bacilles et sur les bactéries ? Sujet qui, à ma connaissance, n'a pas été traité depuis le début du cycle.
Oui. C'est un très vaste sujet. Si vous voulez, les antibiotiques, ce que je peux vous en dire en deux mots, et surtout du point de vue de l'écologiste que je suis, c'est que, bon, premièrement, ce sont au départ des substances naturelles. En réalité, ce sont des substances qui sont fabriquées par un certain nombre de micro-organismes du sol, souvent des champignons, mais quelquefois des bactéries aussi, simplement parce que comme ça, ça leur permet de se débarrasser des voisines et d'avoir pour eux la totalité de la niche écologique et de pouvoir mieux l'utiliser. C'est des substances qui vont agir selon les types de molécules à toutes sortes de niveaux. Il y en a, par exemple, qui vont empêcher la reproduction, d'autres qui vont empêcher la bactérie d'absorber ses aliments, d'autres qui vont détruire la paroi et donc faire que la bactérie va éclater. Seules, je précise, hein, seules les bactéries sont sensibles aux antibiotiques. Les levures, les protozoaires, les champignons dont je vous ai parlé, les autres microbes dont je vous ai parlé, ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Seules les bactéries sont sensibles. Alors, le revers de... Alors, c'est naturellement été des substances extraordinairement utiles. Il faut quand même penser que quand on a découvert les antibiotiques dans les années 1940, c'était la première fois que la médecine disposait d'un produit réellement efficace pour soigner une maladie réellement dangereuse. Hein. Avant, on tripotait, on faisait ce qu'on pouvait, on essayait, on mettait des cierges, mais ça ne marchait pas toujours. Hein. Là, c'était la première fois qu'on pouvait dire, si vous prenez ça, on est sûr que vous allez être guéri. Donc, il ne faut pas leur jeter non plus la pierre. Hein. Après, on les a utilisés un peu larga manu, et du coup, les microbes se sont adaptés aux antibiotiques et ont développé des systèmes qu'on connaît extrêmement bien maintenant pour lutter contre les antibiotiques. Ce qui fait que maintenant, pratiquement, on connaît des bactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques de la création. Il ne faut pas désespérer pour autant, parce que maintenant, la biologie moléculaire a permis de connaître de façon extrêmement précise les modes d'action des antibiotiques, comment est-ce qu'ils agissent réellement, et on est capable cette fois-ci de fabriquer des produits synthèses, non plus de chercher dans la nature de nouveaux antibiotiques comme on l'a fait jusqu'ici en screenant, comme on dit en français, des milliers et des milliers de souches de champignons ou de bactéries du sol pour savoir qu'est-ce qu'elles pouvaient bien produire. Maintenant, on sait fabriquer des produits de synthèse qui vont être actifs directement contre telle ou telle cible et qui pourront prendre le relais des antibiotiques naturels. Donc je pense que les antibiotiques, il ne faut pas penser qu'on puisse s'en penser totalement, ni que leur ère est dépassée. C'est vrai que si les maladies infectieuses font moins peur qu'à l'époque de Pasteur, c'est quand même bien grâce aux antibiotiques. Voilà, c'est un peu schématique ce que je vous en dis, mais voilà quelques
Oui, mots. Monsieur, vous avez terminé en parlant des mauvais microbes qu'on arrive, comme vous venez de dire, qu'on arrive à éliminer petit à petit. Mais alors, monsieur Jean-Bernard, il y a 9 mois, je crois, a dit on a besoin des épidémies. Actuellement, nous avons peut-être des maladies qui se développent parce que les épidémies ne sont plus aussi fréquentes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des indications là-dessus ? D'autre part, à propos de l'asepsie, de la médecine, il y a les nouveaux microbes qu'on découvre dans les fosses de l'océan et qui résistent à 500 degrés, et, n'est-ce pas, on pense enfin. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on connaît de mieux actuellement de tout ce, qu'est-ce qui est intéressant de savoir dans ce domaine de pratique ?
Alors, il y a beaucoup de questions, là, ce que vous dites, mais je vais essayer d'être schématique. Je ne sais pas qui a parlé, donc je regarde au hasard, mais je ne sais pas qui a parlé. Premier point, est-ce qu'on a vraiment besoin des épidémies ? Alors ça, je veux dire, tout le problème dans ces cas-là est de savoir si vous vous placez au niveau d'un individu, au niveau de la population. Hein. L'individu qui est atteint par une bactérie pathogène, un virus ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez toujours lui raconter que s'il disparaît, ce sera peut-être utile pour le reste de l'humanité, mais lui, ça va pas lui faire, ça lui fera une belle jambe. Donc, c'est probable que l'évolution globalement a été liée au fait que telle ou telle population était capable de résister à tel ou tel type de micro-organisme. Il y a eu des adaptations successives entre micro-organismes et les êtres vivants qui ont été une des causes de l'évolution profonde. Bon, est-ce un bien, est-ce un mal, j'en sais rien, c'est l'évolution. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, en général, ce pour quoi on travaille maintenant, c'est quand même plutôt pour l'individu. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que toute la médecine est absolument contre-productive. S'il n'y avait pas de médecine, on éliminerait tous les plus faibles et donc tout un tas de tares génétiques. Vous savez, j'ai des lunettes, pas mal d'entre vous en ont aussi. Si on n'avait pas l'homme préhistorique qui n'avait pas de lunettes et qui ne voyait rien, ben il attrapait moins vite les femelles que les autres et il se multipliait moins vite et c'était un handicap. Maintenant, ça n'est plus un handicap et je pense que c'est quand même pas une mauvaise chose, si ce n'est que très certainement ça a fortement contribué à sélectionner des gènes qui ne nous gênent plus parce que avec les lunettes on arrive à faire des tas de choses. Ça c'est une réponse un peu générale, mais c'est une première réponse. La deuxième réponse un peu générale à votre autre question, c'est le problème de l'adaptation des bactéries à des milieux extrêmes. Alors c'est vrai que les microbes s'adaptent, sont absolument extraordinaires, s'adaptent à des milieux tout à fait extraordinaires. Alors, peut-être pas tout à fait 5000 degrés, mais on sait qu'il y en a effectivement dans les fonds marins abyssaux qui sont capables de coloniser des sources qui sont au-dessus de 100 degrés. Alors, c'est extraordinaire parce que la plupart des protéines ne résistent pas à 100 degrés. On se demande bien comment elles arrivent à résister à des températures aussi élevées. Alors, ça pourrait rester une curiosité naturelle. Les chercheurs s'y intéressent beaucoup parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tirer de là des systèmes enzymatiques qui vont fonctionner dans des conditions extraordinaires où on n'imaginait pas jusque-là qu'on pouvait faire fonctionner des systèmes biologiques. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à ce type de microbes qui s'adaptent à ça. Mais il y en a aussi, on en a trouvé sous la calotte du polaire. Hein. Quand on fait des carottages, on trouve des bactéries qui sont coincées en dessous et qui continuent à survivre dans ces conditions absolument extrêmes. C'est tout à fait faramineux la façon dont ces organismes-là sont capables de s'adapter. Puis, dernier volet de ma réponse, c'est qu'on est vraiment extrêmement loin de connaître la totalité des microbes qui peuplent notre planète. Et sans aller si loin que ça, si je pense à ceux qui me sont chers, et à vous aussi, et qui sont dans notre tube digestif, eh bien, nous savons que nous n'en connaissons pas beaucoup plus que 30%, mais que tous les autres nous échappent totalement. Hein. Il y en a tout un tas, bien que ça fasse maintenant, ça fait bien un peu plus de 50 ans que les gens ont commencé à s'intéresser aux bactéries du tube digestif, il y en a plus des deux tiers qui nous échappent totalement. Donc, il y a beaucoup de découvertes à faire et probablement beaucoup d'utilisations potentielles dans les microbes qu'on ne connaît pas encore. Oui.
L'écume contient des bactéries et vous avez dit que lorsqu'on embrasse une femme, on en prend 10 milliards.
Oui. Je n'ai pas donné de chiffres, mais...
J'aimerais savoir si ces bactéries sont positives ou négatives pour la santé en général.
Elles ne sont pas extrêmement négatives, sinon ça se saurait quand même, je pense. Non, c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, les bactéries du tube digestif, dans l'ensemble, et les plus abondantes, et ce sont celles-là que nous échangeons, bien sûr, hein, celles dont nous possédons quelques milliards, quelques centaines de milliards par gramme de contenu, ce sont toujours celles-là, bien sûr, qui sont les premières à passer, puisque ce sont les plus abondantes. Et celles-là sont en général celles qui jouent des rôles tout à fait positifs sur notre organisme. C'est là-dedans qu'on trouve les bactéries gendarmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont utiles pour éliminer les pathogènes. C'est là-dedans qu'on va trouver des bactéries qui vont nous permettre d'absorber telle ou telle chose. C'est là-dedans qu'on va trouver des bactéries qui vont, par exemple, accélérer la vitesse de transit de notre intestin grêle. Parce qu'on sait, par exemple, que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très longtemps, mais on sait que ces bactéries localisées dans le gros intestin, donc dans le bas de notre tube digestif, sont quand même capables, probablement par des relais humoraux, d'agir sur le haut de notre tube digestif. Elles sont capables d'agir sur nos glandes exocrines. On sait, par exemple, que les bactéries du tube digestif vont réguler le cycle du cholestérol. Et une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles vous faites trop ou pas assez, généralement trop, de cholestérol, c'est lié à des défauts de régulation dans lesquels les bactéries interviennent de façon importante. Donc, elles jouent toutes sortes de rôles positifs à ce niveau-là. Il y en a quelques-unes qui sont moins intéressantes, mais en général, elles sont réprimées par les autres.
Oui, bonsoir, monsieur.
Excusez-moi, je ne sais pas qui...
C'est moi. Rapidement, rassurez-moi. Moi, je n'ai jamais eu... Je touche du bois. Je n'ai jamais eu à prendre des antibiotiques. Il doit y avoir des correcteurs, non? Rassurez-moi, je vous en supplie. Et ensuite, deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est par rapport à la nourriture biologique et les bactéries. Quel est le rapport entre... Est-ce que la nourriture biologique tue les bactéries ou pas?
Alors... Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Premier point, vous n'avez jamais eu de prendre d'antibiotiques, je veux dire, heureusement pour vous, parce que je peux vous garantir qu'il y a des situations où vous ne pourriez pas vous en passer. Je vous ai dit tout à l'heure que les antibiotiques, c'est pas ma tasse de thé, hein, je vous ai dit ça abîme la flore du tube digestif, et je trouve que c'est très gênant. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de circonstances où je vous garantis que vous ne pouvez pas vous en passer et faire autrement. Et on dit beaucoup de mal souvent des antibiotiques, mais je pense que la plupart d'entre nous, si on n'avait pas eu d'antibiotiques, il y en a beaucoup qui ne seraient plus là pour en dire du mal, hein. Donc, il ne faut pas non plus exagérer, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ce sont quand même, je vous le disais tout à l'heure, les premiers médicaments réellement actifs qu'on ait jamais eus. Alors, deuxième chose, le problème de l'alimentation et équilibre de la flore. C'est un problème extrêmement, extrêmement compliqué, que votre alimentation soit plus ou moins biologique, terme que j'aime pas trop parce que ça signifie des choses variées, mais c'est globalement le problème de savoir si votre régime alimentaire agit sur l'équilibre de votre flore est un problème difficile qui a été à l'origine de très très nombreux travaux, et quand vous regardez ces travaux, grosso modo, il y en a à peu près haut comme ça qui dit les aliments agissent fortement sur la flore, et à peu près la même chose qui dit les aliments n'agissent pas sur la flore. Alors, il faut se dire deux choses. D'abord, c'est qu'effectivement, la flore du tube digestif, elle va manger d'abord beaucoup. De toute façon, elle va se nourrir beaucoup avec ce qu'on appelle l'endogène, c'est-à-dire les sucs digestifs que vous allez envoyer dans votre tube digestif, la desquamation de votre muqueuse digestive qui se renouvelle, je vous le rappelle, à peu près une fois toutes les semaines. Donc ça fait beaucoup de cellules qui tombent et que les bactéries, elles, utilisent, vous vous auto-digérez, hein, que les bactéries mangent largement. Donc ça, de toute façon, ça ne change pas beaucoup en fonction de l'alimentation que vous avez. Par ailleurs, on a essayé de comparer des gens qui avaient des régimes extrêmement différents, vous savez, les adventistes du septième jour par rapport aux autres, les bonnes sœurs dans les couvents, parce que c'est fait partie des rares personnes dont on sait exactement ce qu'ils mangent, alors que les autres, on ne le sait jamais exactement, et on n'arrive pas à avoir de différences extrêmement notables, sauf pour quelques cas tout à fait particuliers. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que, globalement, votre alimentation, qu'elle contienne beaucoup de produits dits, entre guillemets, biologiques ou qu'elle n'en contienne pas, ait une influence absolument déterminante sur la flore de votre tube digestif. Ceci dit, ça en a quand même une certaine, et je vous en donnais un exemple tout à l'heure, hein, le lactose du lait, si vous êtes lactasique, si vous en prenez ou si vous n'en prenez pas, vos bactéries, elles ne vont pas faire la même chose au bout, mais elles ne vont pas se changer fondamentalement. Voilà, c'est pas tout à fait sans doute votre réponse, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus.
Monsieur là-bas, oui, je voulais vous demander comment se forme la flore intestinale, c'est-à-dire à quel moment, par rapport à la naissance du bébé, en fait, quand est-ce que la flore envahit en fait, son intestin, et d'autre part, quand on prend des antibiotiques, comment est-ce qu'on les récupère? Et une question subsidiaire, par rapport à la colonisation éventuelle de l'espace et des voyages interstellaires, si on imagine que plusieurs générations d'humains devraient se reproduire dans un milieu stérile d'un véhicule, est-ce qu'on a déjà imaginé des processus pour récupérer cette flore intestinale qui a l'air vitale pour le fonctionnement du métabolisme?
Alors, dans les trois questions que vous posez, la première, c'est de la colonisation du nouveau-né. Ça a donné lieu à beaucoup de travaux. Alors, une chose qui est... premier point, la colonisation, ça se fait pendant le premier jour de la naissance. Dans les 12 heures qui suivent la naissance, les bactéries se développent dans le tube digestif. Mais alors, il y a une chose tout à fait extraordinaire que j'ai beaucoup étudiée avec mes collègues, c'est que quand vous regardez les premières bactéries qui vont se développer, disons pendant la première semaine de vie, elles sont extrêmement différentes de celles que vous allez voir chez l'adulte. Chez l'adulte, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont ces fameuses bactéries anaérobistriques qui n'aiment pas l'oxygène de l'air qui sont dominantes. Chez le nouveau-né, ce n'est pas du tout ça. C'est des Escherichia coli dont on a parlé et des streptocoques et à peu près seulement ça et un petit peu de bifidobactéries aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ça pose un problème pour lequel on a pas le début, on a quelques débuts d'explication mais qu'on ne comprend pas, c'est un tri extraordinaire. Quand un bébé naît, la première chose qu'il fait, en général, c'est d'avaler des matières fécales de sa mère. Et je dirais que physiologiquement, on est à peu près fait pour ça. Et d'ailleurs, quand vous y regardez, j'ai fait ça, quand vous suivez les premières bactéries qui sont émises dans le méconium et dans les premières selles d'un nouveau-né, vous voyez transiter dans le tube digestif pratiquement toutes les bactéries fécales qu'il y avait chez sa mère. Et pourtant, ces bactéries-là ne se développent pas chez le bébé. Autrement dit, le bébé, il va faire un tri dans les bactéries qui vont lui passer dans son tube digestif et qu'il a récupéré chez sa mère ou qu'il a récupéré ailleurs, hein, chez ses soignantes ou à l'extérieur si on l'a eu par césarienne, ça ne change pas grand-chose, c'est les mêmes qui se développent. Et ça, c'est un tri qui est d'une extraordinaire efficacité. Hein, il y a 9980 bébés sur 10 000 qui n'ont pas de problème et qui trient ces bactéries-là parmi des milliards et des milliards d'autres. Et ça, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment ça fonctionne. Alors on se dit, bien, il y a sans doute une composante immunitaire, il y a sans doute une composante de nutritionnelle. On sait que ce n'est pas tout à fait pareil quand on a du lait maternisé ou quand on a du lait de la mère, encore que. Bon, mais on ne sait pas en fait comment ça fonctionne ni comment. Et ça, c'est un point que je trouve personnellement extrêmement passionnant, mais pour lequel je n'ai pas de réponse à vous donner. Alors après, à partir du moment où vous avez cette fleur-là chez le nouveau-né, il va la garder tant qu'il va recevoir le lait de sa mère. Et puis, au fur et à mesure qu'on va le sevrer, eh bien, petit à petit, vous allez voir apparaître les bactéries de l'adulte par séquence, les unes après les autres. Et on sait d'ailleurs que ces séquences doivent être absolument respectées et que si vous ne les respectez pas, vous risquez d'avoir des ennuis à la fin du sevrage parce que vous n'aurez pas installé les bonnes bactéries dans le bon ordre. Donc ça, c'est un problème en soi qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça veut dire que quand on donne à nos enfants du lait maternisé, on ne l'appelle plus comme ça maintenant d'ailleurs, on ne dit plus qu'il est maternisé, on dit qu'il est, je ne sais plus quoi, humanisé. On dit qu'il est humanisé maintenant. Quand on leur donne du lait humanisé, en fait, il est humanisé en ce sens qu'il a dedans les éléments du lait maternel. On rééquilibre dedans les protéines, le lactose, les sels minéraux, etc. Mais en réalité, on n'y met pas ce qui fait qu'il y a ce qui participe au tri de la flore. Et on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans ces laits pour qu'ils soient vraiment maternisés au point qu'on ait la même possibilité de tri que là l'enfant. Mais c'est pas suffisant à soi tout seul. Je pense que c'est l'addition D'une, probablement une physiologie particulière du tube digestif, de facteurs immunitaires, plus de facteurs du lait maternel. Mais il y a vraiment quelque chose que pour l'instant on ne connaît pas. Et donc, mesdames, je vous le redis, nourrissez vos enfants, parce que si vous ne les nourrissez pas, eh ben, on n'est pas capable de faire aussi bien que vous avec tout, n'importe quel autre type de lait. Donc je profite de l'occasion pour faire ma petite pub là. Alors la deuxième question qui est de savoir comment est-ce que les microbes se réinstallent une fois qu'on les a embêtés avec des antibiotiques? Eh bien, je dirais que ils se réinstallent tout seuls. Dieu merci, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que quand vous avalez des antibiotiques, vous détruisez les bactéries, puis après, quand vous arrêtez de prendre des antibiotiques, ça rediminue, bien sûr, hein, et vous passez au bout d'un moment en dessous du seuil auquel les in vivo, dans le tube digestif, au-dessous duquel les bactéries sont sensibles. Et à ce moment-là, vous vous apercevez que vous faites immédiatement réapparaître toutes vos bactéries anaérobistriques de votre flore dominante. Ce qui veut dire que même quand vous prenez des antibiotiques qui vont dans votre tube digestif ou qui vont ailleurs, parce que vous les avez pris par des injections ou autrement, vous ne tuez pas la totalité des bactéries de votre tube digestif. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on a essayé de faire, moi j'ai pas mal travaillé autour de ça aussi, on a essayé de voir si on pouvait décontaminer les gens dans un certain nombre de circonstances difficiles, en particulier quand on veut les irradier, quand il s'agit de gens que l'on voudrait greffer de la moelle, par exemple, pour éviter un certain nombre de réactions immunitaires, donc on essaie de les irradier. On sait qu'au moment où on les irradie, on a beaucoup d'ennuis, parce qu'à ce moment-là, ils ont des infections qui se font à partir des bactéries qui sont dans leur tube digestif. Donc on a essayé d'éliminer totalement ces bactéries du tube digestif avec des antibiotiques. On s'aperçoit que ce n'est pas possible. On n'arrive pas à éliminer toutes les bactéries du tube digestif. Donc il y a toujours des niches écologiques, et j'ai essayé ça chez les animaux aussi, il y a toujours des niches écologiques, on ne sait pas très bien où elles sont, mais où vont subsister des bactéries. Ce qui fait que quand vous allez arrêter les antibiotiques, eh ben, ça va repartir et ça va se réinstaller tout seul. Et c'est quand même assez heureux, parce que sinon on ne saurait pas très bien quoi faire. Est-ce que la flore se maintiendra dans l'espace? Ça, je ne peux pas vous dire vraiment la chose. La seule chose sur laquelle les gens se sont penchés, je m'excuse du propos, mais c'est que quand même une capsule en l'air, c'est un endroit extrêmement fermé dans lequel on est obligé de réépurer l'atmosphère en permanence. Donc on essaie qu'il y ait le moins de gaz possible fabriqué par les bactéries et envoyé par les astronautes, de façon à ne pas avoir trop d'ennuis à réépurer l'atmosphère relativement confinée de ces capsules spatiales. Et ce n'est pas si simple que ça, mais ça veut dire que de temps en temps, quand ils vous font voir leur part de dinde là, le soir de Noël dans l'espace, ce n'est pas ça qu'ils mangent tous les jours, parce qu'on essaye quand même de leur donner des menus qui ne sont pas générateurs d'un minimum de gaz qui pourrait gêner un petit peu leur atmosphère. Ça a été pas mal étudié assez curieusement. Bon, ceci dit, je pense que la flore, elle s'est transmise hein, des mères aux enfants depuis déjà beaucoup de siècles, et que même dans une atmosphère assez confinée comme ça, elle continuera à se transmettre.
Bonjour monsieur, je vous pose une question sur la culture bio. Les légumes biologiques...
Je ne vois pas qui parle.
Je suis ici. Les légumes biologiques sont...
J'entends toujours par là, moi.
Sont cultivés sans nitrates, hein, les nitrates qui polluent les nappes phréatiques et qui sont très très dangereux pour l'organisme. Vous nous avez parlé des bactéries qui sont capables de capter l'azote de l'air, bactéries qui se mettent en symbiose dans des racines, en particulier les racines des légumineuses. Est-ce que vous avez été capable de faire que le blé, qui a besoin de beaucoup d'azote, puisse entrer en symbiose avec une bactérie capable de capter l'azote de l'air, 80% d'azote dans l'air? Je crois que c'est quand même une solution. Si vous étiez capable de le faire pour toutes les plantes, de mettre des bactéries capables de prendre l'azote de l'air, ça éviterait d'utiliser les nitrates, et en particulier le blé a besoin de nitrates pour la fabrication de ses protéines. Est-ce que vous y êtes arrivé?
Oui.
Parce que j'avais entendu parler que vous étiez sur un programme de recherche.
Alors, il y a deux questions, ce que vous dites. La première, je voudrais vous répondre, c'est que même dans l'agriculture biologique, les plantes ne poussent pas sans nitrates. Elles poussent sans nitrates artificiellement ajoutés. Hein. Les nitrates, on peut les faire par voie chimique ou on peut les faire en prenant du guano ou autre. On va apporter un engrais qui va être du nitrate. Ou on peut apporter de la matière organique qui va être transformée en nitrate par les bactéries du sol. Mais de toute façon, biologique ou pas biologique, les bactéries, il leur faut du nitrate parce qu'elles ne savent pas fabriquer leurs protéines avec autre chose qu'avec du nitrate. Donc la seule chose qui va différencier une agriculture dite biologique d'une autre, c'est la forme de nitrate qu'on va apporter. On va apporter directement du nitrate ou on va attendre que les bactéries transforment de l'azote en nitrate. Donc c'est à peu près pareil pour les bactéries elles-mêmes. Alors quant à la fixation de l'azote de l'air, effectivement, on a beaucoup avancé sur la compréhension en biologie moléculaire de la façon dont les bactéries qui sont associées aux légumineuses sont capables de fixer l'azote de l'air. Et maintenant, on connaît tous les systèmes enzymatiques qui sont nécessaires successivement pour arriver à ça. Et il y a longtemps, en fait, qu'on espère bien transférer ça à des plantes qui ne sont pas des légumineuses. Le premier candidat à ça, ce n'est d'ailleurs pas le blé, mais le riz. Pour l'instant. Et je pense qu'on va y arriver. Alors je dirais que pour l'instant, on ne sait pas le faire, en tout cas, on n'en est pas encore à pouvoir commercialiser des graminées fixatrices d'azote, mais on finira par y arriver. Hein. On pourra discuter de l'intérêt que ça peut avoir, mais c'est effectivement quelque chose qui est important et qui est très étudié et qui va déboucher un jour ou l'autre.
On va prendre une dernière et rapide question, s'il vous plaît.
Je voulais vous dire d'une part merci pour la conférence et d'autre part, je voulais vous poser la question, à savoir est-ce que donc si on a un système de cellules macrophages en bon état ou faut-il qu'il soit performant pour ne pas développer de pathologie et que pensez-vous de l'affirmation de Claude Bernard lorsqu'il a affirmé que le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout?
Oui, si vous voulez, ce que dit Claude Bernard, comme tous les grands hommes, c'est plus facile à dire quand on ne connaît pas bien comment ça marche, qui était son cas à l'époque. Mais si vous voulez, c'est un peu ce que je vous ai dit. C'est difficile sauf quelques cas exceptionnels, mais c'est difficile de dire qu'un microbe est en soi dangereux. Il n'est dangereux que si vous avez en face, effectivement, un individu, un animal qui est sensibilisé à ce micro-organisme d'une façon ou d'une autre. Et effectivement, on peut, sous cet angle-là, on peut dire que le terrain joue un rôle au moins aussi important que le microbe. Mais il faut quand même que les deux jouent un rôle. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que le terrain est tout indépendamment du micro-organisme. Hein, il y a des micro-organismes avec lesquels, finalement, quel que soit le terrain, vous n'aurez jamais de problème. Et puis d'autres avec lesquels vous aurez quand même beaucoup plus facilement des problèmes. Donc c'est vrai, c'est une affirmation qu'on peut dire comme ça, mais qu'il faut quand même tempérer hein, dans le temps. Je ne sais pas si je vous convainc bien ou si c'est ça la réponse que vous attendiez. Mais...
Bien.
Peut-être que je n'ai pas bien vu ce que vous vouliez dire.